Anecdote. À l'automne 1502, au moment où Machiavel, c'est une lettre privée de Machiavel, au moment où Machiavel se trouve en mission diplomatique auprès de Cesare Borgia, Cesare Borgia, c'est le chapitre 7 du Prince, et bon, être en mission diplomatique auprès de Cesare Borgia, vaut mieux avoir le dos couvert, quoi, parce qu'ils bon, sont rapides quoi, dans la famille Borgia. Alors, Cesare Borgia, il est auprès de lui. Cesare Borgia vient de se tailler un état nouveau en Romagne et aimerait bien l'élargir aux dépens du territoire flamand. Et à ce moment-là, dans une lettre à un de ses amis et collègues de la chancellerie, qui s'appelle Biagio Bonaccorsi, il demande de lui envoyer au plus vite un exemplaire des vies parallèles de Plutarque. Et on n'a pas la lettre de demande, mais on a la responsive de Biagio Bonaccorsi qui lui dit « Écoute, t'es vraiment un casse-pied, donc tu vois, ouais, en termes proprio un infradice, ça m'est grave. » Parce qu'il dit « On trouve le livre nulle part, on va essayer de le trouver à Venise, donc je vais l'aimer. » Bon. Ben, bon, je pense que l'anecdote illustre hein, ce besoin de la lecture des anciens passé au crible du moment. Hein. La lecture des anciens qui sert... Ouais, à essayer d'élucider les questions du présent, à essayer de comprendre les fonctionnements des hommes, à mieux comprendre les situations et les façons d'agir. Alors, cela incontestable, hein, la présence des historiens incontestable, utilisée y compris dans les moments où ben, c'est pas les 4 heures où ils discutent avec les anciens dans son cabinet, mais cela ne signifie pas que la culture de Machiavel soit réduite aux historiens et que cela ne signifie pas que Machiavel ne connaisse pas les traditions philosophiques du passé. Mais il y a dans ses rapports avec la philosophie un certain nombre de questions à élucider. Voilà. Je vais essayer de faire ça vite. Hein. C'est simplement un point, un épisode, voilà. Petite citation, là aussi, on fait par petit point, Histoire florentine 5.1, il raconte dans ce passage le fait que lorsque Carnéal et Diogène, philosophe envoyé par Athènes comme ambassadeur à Sénat, viennent à Rome, Caton, voyant que la jeunesse romaine commençait à les suivre avec admiration, et connaissant le mal qui pouvait naître pour sa patrie de cette honnête oisiveté, en est ordre, c'est l'ordre sur une condignité, fit en sorte qu'aucun philosophe ne puisse être reçu à Rome. Ouais. Donc, lettre, philosophie, option, renoncement aux arts, désordre, c'est la fin des cacahuètes. Il n'en faut pas. Bon, alors, il ne faut pas surdéterminer cet épisode, mais enfin, il n'en existe pas moins. Hein, il ne faut pas le surdéterminer, il ne faut pas non plus surdéterminer ou donner trop d'importance au très faible nombre de références explicites, mais même implicites, parce que, bon, évidemment, dans les exégèses savantes, ils arrivent toujours à trouver qu'il y a marqué mai, et que mai, c'est aussi dans Platon, et donc il a eu Platon, mais il y a très très peu. Hein, Jean-Louis s'était amusé, enfin amusé, il savait compter, etc. Ça ne faisait vraiment pas beaucoup, quoi, les références explicites aux philosophes et à la philosophie. Mais sans surdéterminer ça, on peut dire que voilà, Machiavel, il arrive que Machiavel convoque une matière philosophique, et sa culture et sa formation, comme l'a montré très bien Andrea Guidi dans son dernier livre, est plus grande qu'on l'a cru longtemps. C'est une vraie formation humaniste, quoi. Hein. Peut-être pas jusqu'au bout, mais quand même une vraie formation humaniste, une bonne connaissance du latin, il sait pas le grec, mais c'est le mais qui est important ici, il n'est pas prêt à reprendre une logique philosophique et à inscrire son propos dans un commentaire d'autorité. Hein, voilà. Et on voit que quand Machiavel déclare dans le chapitre 15 du Prince qu'il va suivre La verità effettuale della cosa e non l'immaginazione di essa, la verità dans les faits, dans les effets, non la vérité effective de la chose, et non ce qu'on peut en imaginer, ou non l'image qu'on s'en fait, eh bien, il effectue une rupture avec les modes de, la, avec les modes de pensée de la philosophie politique, avec le courant néo-platonicien qui s'est développé à Florence avec Ficin, avec la tradition thomiste, qui était vraiment qui était très présente avec les dominicains en particulier, extrêmement. Ça ne signifie pas qu'il n'ait pas lu les politici, ça, les écrivains qui traitent des choses politiques, qui traitent du fonctionnement de la cité, donc les philosophes politiques, pour employer un terme anachronique, mais ce n'est pas, mais ça signifie que ce n'est pas d'abord à partir de leurs textes, même quand il les a lus et bien lus, qu'il effectue son propre travail d'élaboration politique. Anecdote 2. Dans une lettre du 26 août 1513, si vous retenez les lettres, vous êtes, je vous interroge après, mais ça va. Dans une lettre du 26 août 1513, toujours encore à son copain Francesco Vettore, il cite Aristote, en tout et pour tout, dans toute l'œuvre, il y a deux fois où c'est cité ouvertement, là et dans le discours en 3.16, un truc comme ça. Et là, c'est, je pense que c'est une citation significative de son attitude à cet égard. Machiavel et Vettore discutent du danger qui représente les Suisses à ce moment-là, donc on est à la moitié de l'année 1513. Vettore défend la thèse sur laquelle ce danger est faible et, pour appuyer sa thèse, invoque l'autorité d'Aristote. Il dit il n'y a qu'à lire Aristote là où il parle des républiques divisées et on comprendra la faiblesse des Suisses. Machiavel lui répond: j'ignore ce que dit Aristote à propos de la République divisée, mais je sais bien que... Et il fait une analyse politique. Alors, comme on fait remarquer avant Jean-Louis et moi, on reprend Gennaro Sass, Giorgio Inglese, si l'un des deux correspondants ne sait pas ce qu'a écrit Aristote, c'est Vettore et pas Machiavel, car aucun passage du philosophe ne traite explicitement cette question. Machiavel répond donc ironiquement à son ami, et cette ironie se fonde sur une connaissance plus réelle des textes. Mais ce n'en est pas moins sur sa pratique, sur son expérience, et non sur l'exégèse ou une lecture critique, qui fonde l'essentiel de la réponse, qui se révèle être la bonne. Les Suisses vont pendant 2 ans diriger de fait le duché de Milan, jusqu'au moment où le roi de France, François Ier, l'emporte à Marion. Alors, en résumé, par rapport à la philosophie, son acte a une portée philosophique dans la mesure où toute élaboration ultérieure dans le champ de la philosophie politique doit en tenir compte. De fait, toute la philosophie politique depuis en tient compte. Mais il part d'autres prémices que ceux de la philosophie politique. Il introduit dans la réflexion sur la cité un vocabulaire, des références qui n'appartiennent pas naturellement à la philosophie. Alors, dernier point qui sert à la conclusion, comment interroger les anciens? Et là aussi, j'ai focalisé sur 2 exemples, sur la façon dont Machiavel imite ou cite les anciens. Et donc, il les imite ou il les cite en fonction des questions qu'il entend résoudre. Alors, un exemple, dans le chapitre 18. Le chapitre 18, c'est « Est-ce qu'un prince doit tenir parole, doit garder sa foi ?» Il y a une référence implicite, mais sans l'ombre d'un doute, au traité sur les devoirs de Cicéron. Même une citation textuelle indubitable. Enfin, Machiavel commence par expliquer à ses lecteurs il y a 2 manières de combattre, d'où une génération de combattre. L'une par les lois, l'autre par la force. La première est le propre de l'homme, la seconde des bêtes. Donc, l'expression italienne, d'où une génération de façon de combattre, de manière de combattre, calque une expression du Deophilicis. D'où une génération de certaine. Il y a en effet, là, je cite. C'est le Deophilicis 1.34. Il y a en effet 2 manières de combattre, l'une par la discussion, l'autre par la force. Et la première est propre à l'homme, l'autre aux bêtes, il faut recourir à cette dernière s'il n'est pas possible d'utiliser la première. Mais si la formulation est empruntée à Cicéron, on voit que les conclusions tirées ne sont pas les mêmes. Pour Cicéron, la force propre aux bêtes n'est à utiliser que dans le cas où la nécessité y contraint absolument. Pour Machiavel, l'expérience montre qu'il faut être prêt à user en permanence de l'une et de l'autre. Comme souvent, la première ne suffit pas, il faut recourir à la seconde. De ce fait, il est nécessaire à un prince de bien savoir user de la bête et de l'homme. Métaphore du centaure. Métaphore du centaure. Voilà. Deuxième exemple, toujours dans le même passage. Si la nécessité amène à combattre à la manière des bêtes, c'est-à-dire par la force, il faut être capable d'imiter le renard et le lion. Et là aussi, citation du De Officiis, là c'est 1.41. Cicéron, De Officiis, 1.41. Il y a en effet deux façons de faire une injustice, soit par la force, soit par la ruse. Aut vi, aut fraude. La ruse est propre au renard, la force au lion. Fraus quasi vulpecule vis leonis. L'une et l'autre sont tout à fait contraires à l'homme, mais la ruse est digne de plus de haine encore. Les conclusions sont là aussi, même si ça va vite, mais enfin, ça se fait comprendre tout de suite. Machiavel écrit que le prince doit être en permanence l'un et l'autre. Il faut donc être renard pour connaître les raies et lion pour effrayer les loups. Ceux qui sont contents de faire le lion ne s'y entendent pas. Voilà. Donc, il y a bien une bibliothèque de Machiavel, un rapport d'amour entre Machiavel et les livres des anciens qui répondent par humanité à ces questions visant à comprendre les raisons de leurs actes. Mais cet amour évident, cette proximité mise en scène ne doit pas faire oublier que sa lecture s'ancre dans le présent, dans l'analyse d'une conjoncture. Machiavel pense que l'histoire des temps passés peut être la maîtresse de nos actions parce que le monde a toujours été habité de la même façon par des hommes qui ont toujours eu les mêmes passions. L'expérience politique et militaire des anciens, qui est rapportée par l'histoire, doit donc être interrogée en fonction des questions que pose l'histoire du présent, celle de la guerre et de la survie de la République florentine. La prégnance de ces questions, mise en évidence par son expérience politique, explique pourquoi son écriture des choses modernes s'appuie sur une lecture passionnée des anciens.